Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bosuma.
C'est déjà demain que le pape François foule le sol congolais. Tous les moyens sont mobilisés pour que cette visite papale rentre dans l'histoire de la RDC. À cette occasion, l'archevêque de Kinshasa appelle le peuple congolais à réserver un accueil digne de son rang au pape François. Mise en œuvre du programme de développement à la base des 145 territoires, le Centre de recherche en finances publiques et développement local demande au Premier ministre de tout mettre en œuvre pour recadrer la gestion de ce programme. En effet, cette organisation relève des failles, entre autres la surfacturation de certaines infrastructures. Madame, Messieurs, bonjour. Plus que quelques heures pour que le pape François foule le sol congolais. Comme vous le savez, le souverain pontife est attendu ce mardi à Kinshasa pour une visite allant du 31 au 3 février 2023. Tous les moyens ont été mobilisés pour faire de cette visite papale un événement qui laissera des traces dans l'histoire du pays. Prenant la mesure de l'événement, le cardinal Fridolin Ambongo appelle le peuple congolais à réserver un accueil digne de son rang au pape François. Le vendredi, l'archevêque de Kinshasa a échangé avec quelques journalistes sur Twitter. Pour lui, la visite du pape est un moment de cohésion nationale qu'il faudrait capitaliser. Le cardinal Fridolin Ambongo, dans ses propos recueillis par Cynthia Bachizi.
Ce que je demande au peuple, c'est, lorsqu'il sera ici, lui manifester l'accueil qui soit vraiment digne de ces grands hommes. À ceux qui n'auront pas la chance d'être à Kinshasa, nous essayerons à travers tous les moyens de communication dont nous disposons pour que les autres puissent aussi suivre les événements, notamment les grandes célébrations qui seront présidées par le pape. Que nous puissions vivre ce moment de cohésion nationale, ce sera peut-être le meilleur souvenir que nous garderons de cette visite en disant, oui, grâce à la visite du pape, quelque chose a commencé dans le vécu du peuple congolais.
Pendant ce temps, les autorités passent au peigne fin les sites aménagés pour la visite du pape François en RDC. Ce week-end, samedi donc, le chef de l'État s'est rendu dans chaque lieu pour se rassurer que tout est au point. Au même moment, le Premier ministre a réuni le même samedi tous les services en charge de la sécurité durant tout le séjour pour une évaluation quasi complète des dispositifs mis en place pour la sécurité du souverain pontife et celle des nombreuses personnes qui assisteront à cet événement. Billy Van Lutumba pour d'autres détails.
À l'aéroport de Ndolo, Félix Tshisekedi apprécie le gigantesque podium monté sur un espace de 150 mètres carrés devant servir d'hôtel pour la messe de sa sainteté le pape. 30 compartiments et points d'accès sont prévus pour les fidèles aux côtés de la vingtaine d'écrans géants qui vont retransmettre le signal de la RTNC, indique le service des communications de la présidence. Du stade des martyrs, retenu pour la rencontre avec les jeunes au palais de la nation où est prévue la rencontre avec le chef de l'État et les acteurs politiques, la qualité d'aménagement de ces lieux est satisfaisante pour Félix Tshisekedi. Pour sa rencontre avec les diplomates présents en RDC, les animateurs des institutions politiques, de la société civile et autres politiciens, un dispositif particulier est érigé toujours au palais de la nation, lieu d'où François s'adressera aux Congolais, précise la presse présidentielle. Pour ce dernier coup de balai, le Premier ministre, pour sa part, a dans la soirée du même samedi échangé et transmis aux divers services en charge de la sécurité les dernières orientations du chef de l'État, Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement.
Vous avez entendu beaucoup de rumeurs dire que la commune de la Gombe sera fermée, ce qui est totalement faux. Il y aura évidemment une zone autour de la nonciature, pas loin de la banque centrale, qui aura un dispositif de sécurité, un peu comme c'est le cas autour des sites présidentiels, parce que le pape, c'est aussi un chef d'État.
En rapport justement avec la visite du pape, le gouvernement décrète le mercredi 1er février 2023 une demi-journée chômée dans la ville de Kinshasa. C'est pour permettre aux fidèles d'aller aux services religieux, notamment la messe papale prévue à l'aéroport de Ndolo. Il n'y aura pas de classe pour les enfants. Les heures ouvrables seront dans l'après-midi. Cette décision émane d'une seconde réunion que le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a également présidée dans la soirée de samedi 29 janvier à la primature. On écoute à ce sujet le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, dans cet extrait que nous propose Billy Van Lutumba.
La journée du mercredi, qui est la journée de la messe papale, sera une demi-journée. Les heures ouvrables seront plutôt les après-midi pour permettre aux fidèles, les avant-midi, de se rendre au service religieux, mais que ces jours-là, il n'y aura pas classe. Il faut que cela soit bien clair, comme ça, les parents savent que mercredi, il n'est pas question de se stresser pour s'élever tôt pour amener les enfants à l'école. C'est une des précisions, une des décisions qui est ressortie de cette réunion. Mais on a eu l'occasion d'avoir un briefing aussi sur la santé, comment elle sera prise en charge, les personnels médicaux mobilisés, les autres dispositions, pour qu'on soit sûr de tout les dérouler et que toutes les dispositions aient été prises pour que cela soit une réussite totale.
Direction le Nord Kivu. Des centaines de familles de la cité de Kichanga qui ont fui cette cité le jeudi, jour de l'entrée du M23 et alliés pour s'y réfugier à Mueso, environ 15 kilomètres au nord de Kichanga, vivent un véritable calvaire. Ces déplacés qui sont exposés à toutes sortes d'intempéries et des maladies diverses sollicitent une intervention urgente du gouvernement pour leur survie. Le point avec Pele Kipela Mondo.
Environ 90% de la population de Kichanga ont abandonné leur domicile pour se mettre à l'abri. Des centaines de ménages ont pris d'assaut des écoles, églises ainsi que les stades Bilombé de la localité de Mueso. Certains sont hébergés dans des familles d'accueil, d'autres passent la nuit à la Belle Étoile, affirme une autorité administrative joint sur place à Mueso. Pas d'eau, pas de nourriture, pas de toilettes et de soins médicaux. C'est le calvaire total que traversent ces déplacés qui sollicitent l'intervention urgente du gouvernement et de ses partenaires. 5 cas de maladies diarrhéiques sont déjà enregistrés parmi les enfants déplacés. MSF, l'ONG Action contre la faim ACF et les relais communautaires sensibilisent sur le respect des règles d'hygiène dans ces lieux publics. La situation de précarité est identique pour ceux qui ont fui vers Kalembe, Kashuga, Mongozi et Pinga. Par ailleurs, le contingent des casques bleus de la MONUSCO, basé à Kichanga, apporte son appui en protection, logistique et en eau à des dizaines de ménages qui ont trouvé refuge à la base de la mission onusienne sur place à Kichanga. Pour ce faire, 5 tentes sont construites par les contingents marocains. Rappelons que c'est depuis jeudi dernier que les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais occupent la cité de Kichanga après les combats qui ont jeté sur les chemins d'exil des milliers de personnes.
Entre-temps, hier dimanche, au 4e jour de l'occupation de la cité de Kichanga par le M23 et leurs alliés rwandais, un calme précaire a régné dans la région. Selon nos sources locales, aucun coup de feu n'a été entendu depuis le samedi dans la soirée. Les mêmes sources renseignent que les rebelles et leurs alliés qui quadrillent la cité mènent des patrouilles diurnes et nocturnes. Ils seraient très nombreux, visibles dans la cité. Un déplacé joint à partir de Mueso renseigne que les quelques déplacés courageux qui rentrent à Kichanga à la recherche de quoi manger sont interdits par les rebelles de retourner dans leur lieu de refuge. Ils parlent de prise d'otages des habitants, ce qui augmente la peur des déplacés qui meurent de faim dans les lieux de refuge. Et comme conséquence de l'occupation des lieux par le M23 et l'armée rwandaise, 3 radios locales qui émettent dans l'agglomération de Mueso, dans le territoire de Masisi, sont contraintes de fermer. Depuis 4 jours, la radio communautaire de Mueso, la radio communautaire pour la paix de Bachali et la radio Koraki FM de Kichanga n'émettent plus. Selon un des responsables de ces médias, c'est à cause des menaces qu'ils reçoivent de la part de ces rebelles. Ils ont jugé bon, selon ses propres mots, de se protéger et protéger les équipements et matériel. Au regard de ces menaces, il plaide auprès de la MONUSCO pour l'évacuation des journalistes qui vivent actuellement en clandestinité. Témoignage de l'un d'eux.
C'est depuis la prise de Kichanga par les M23 que nous, on a jugé bon de fermer les médias. Il s'agit des 3 radios. Donc, les journalistes, nous restons en clandestinité. Il n'y a pas moyen de travailler. Et on a fermé les matériels parce qu'on a reçu plusieurs menaces de la part du M23 qui voulait s'attaquer aux journalistes, aux différentes radios. Et là, on s'est dit, on ferme d'abord les activités. Alors, pour le moment, c'est très difficile de circuler même dans la cité parce qu'ils ont envoyé partout des ANR pour chercher les journalistes. Et aussi, ils sont dans la cité. Alors, nous sommes en train de demander une évacuation urgente auprès de la MONUSCO si elle peut nous aider en nous envoyant un hélicoptère pour faciliter notre évacuation parce qu'il n'y a pas vraiment moyen de quitter. Avant d'arriver à Goma, on doit passer par Kichanga. On ne sait pas s'il faut passer où. Ils sont en train d'épanouir leur position dans plusieurs villages de Massis. Donc, c'est vraiment pour nous un problème au niveau de nos médias ici dans la zone autour de Bachali.
Du côté de l'Ituri, les conditions de vie des déplacés installés sur le site de Roé, en territoire de Djougou, se sont aggravées depuis l'attaque le 8 janvier dernier des éléments de la milice Codeco dans cette zone. Ces personnes n'ont pas accès à leurs champs à cause de la présence des hommes armés et les conditions hygiéniques y sont déplorables. Ce constat est fait par la chargée en Ituri des affaires humanitaires de Médecins sans frontières lors d'une visite effectuée sur ce site. Philomène Francens rappelle à toutes les parties prenantes au conflit de respecter la population civile. Elle les invite à protéger la mission médicale en vue d'apporter de l'assistance à des milliers de personnes qui sont dans le besoin. On écoute la chargée en Ituri des affaires humanitaires de Médecins sans frontières dans cet extrait choisi par Jean-Claude Bloqui.
Lors de ma visite, j'ai notamment pu échanger avec nos staffs présents sur place qui ont eux aussi été déplacés par ces événements du 8 janvier et qui vivent depuis lors dans le camp de Ro, dans des conditions pour le moins précaires. L'approvisionnement en nourriture est rendu très difficile en raison de l'insécurité qui prévaut autour du site de Ro. Les gens n'ayant plus la possibilité d'accéder aux champs environnants, ceci perturbe également énormément l'approvisionnement des marchés. Il y a aussi de très grands besoins en eau, hygiène et assainissement. Par ailleurs, on note aussi un manque critique de latrines, ce qui entraîne de véritables risques de développement et de propagation d'épidémies au sein du camp. Enfin, l'insécurité du site de Ro et de ses alentour demeure une grande préoccupation pour la population du camp, dont nos staffs font partie. Les gens vivent donc dans l'angoisse permanente d'une nouvelle attaque. En tant qu'organisation médicale humanitaire, MSF déplore ces cycles perpétuels de violences menées par les groupes armés en Ituri à l'encontre des populations civiles. De ce fait, nous appelons toutes les parties au conflit à protéger les civils et à respecter la mission médicale, y compris sur les axes routiers qui mènent à Ro et qui sont essentiels pour acheminer l'aide humanitaire, qui fait malheureusement toujours défaut aujourd'hui, 2 semaines après ces derniers déplacements massifs.
Je vous l'ai dit dans le titre, la mise en œuvre du programme de développement à la base de 145 territoires s'est faite dans une approche centralisée en violation de la Constitution, de la loi relative aux finances publiques, des marchés publics et des principes de la libre administration des provinces. C'est ce que révèle l'organisation Centre de recherche en finances publiques et développement local dans son rapport à mi-parcours publié à Kinshasa le 26 janvier dernier. Ce rapport relève la surfacturation de certaines infrastructures. Cette organisation demande au Premier ministre de tout mettre en œuvre pour recadrer la gestion du programme 145 territoires et aux organes supérieurs de contrôle des finances publiques d'entamer la vérification de la procédure des marchés publics pour éviter à ce programme de connaître le même sort que celui des 100 jours. Daniel Tambinzoni a lu pour nous ce rapport dont l'essentiel est rendu ici par Pele Kipela Mondo.
Les rapports citent par exemple la construction de l'école primaire d'Amas d'une capacité de 6 salles de classe dans le territoire des Harou en Ituri qui a coûté 455 559,12 $ pendant que le montant initial est de 130 000 $. Des bâtiments administratifs et des centres de santé connaissent aussi les mêmes sorts, indiquent les documents. L'analyse des bases de données a démontré que certaines infrastructures reprises dans les lots des projets du programme de développement local des 145 territoires ont déjà été financées par l'État. C'est le cas de l'école primaire Kaloulé dans les territoires de Louboudi, dans les Lualaba. Entre 2015 et 2016, l'école avait été construite dans le cadre du projet de reconstruction et réhabilitation des infrastructures scolaires lancé en 2013. Les rapports parlent aussi d'un décaissement par un circuit irrégulier de 511 millions de dollars pendant que la loi des finances 2022 prévoyait 481,1 millions de dollars. 80% des marchés ont démarré sans l'approbation préalable de l'autorité compétente et ont reçu la totalité des fonds. C'est contre la loi qui en fixe les modalités. Ainsi, le total des marchés surfacturés à la première phase pourrait faire perdre à l'État 334,4 millions de dollars.
Dans l'actualité aussi, la Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme demande aux autorités de fournir plus d'efforts pour débarrasser la ville de Kinshasa des nombreuses flaques d'eau et des milliers de trous béants qui jonchent les artères de la capitale. Au cours d'un point de presse samedi à son siège à Kinshasa, la VSV a dressé une liste non exhaustive des trous et flaques d'eau. Elle recommande à l'IGF d'enquêter sur les millions de dollars dépensés dans le projet Kinshasa Zéro Trou, dont le résultat reste décevant, selon un des enquêteurs de la VSV. Cette situation offre un spectacle désolant et viole la liberté de circulation des personnes dans la capitale congolaise. Dolly Befo parle ici de quelques trous au micro de Jeff Ngoy.
avenue des universités au niveau de Capella, en face de Kin Marché, commune de Calabre, avenue Colonel Ebeya, en diagonale du bar Ngouassouma, commune de la Gombe, avenue du Livre, en passant par l'avenue Province jusqu'à l'avenue Kitona, commune de la Gombe, avenue Victoire. La VSV reconnaît qu'il existe plusieurs avenues qui ont été construites ou réhabilitées par les autorités congolaises. Cependant, elle se demande si le projet KIN Zéro Trou lancé en octobre 2021 a atteint ses objectifs avec les millions de dollars dépensés. La VSV pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à fournir par les autorités congolaises pour boucher les trous, lutter contre le flaque d'eau, déboucher les caniveaux en vue de respecter et faire respecter la liberté de circulation des personnes et leurs biens dans la dignité à Kinshasa.
Actualité internationale.
La Tunisie a organisé hier dimanche le deuxième tour de législatives destiné à élire un parlement privé de réel pouvoir. Après un taux d'abstention record, selon des chiffres préliminaires, la principale coalition d'opposants a appelé dans la soirée à former un front uni politique et syndical contre le président Kais Saied. Fin de ce journal, supervisé par Pele Kipela Mondo. Merci de l'avoir suivi.